savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Vampires, loups-garous, forces surnaturelles ou abeilles tueuses, longtemps les films dits de genre, horreur ou fantastique, étaient considérés comme relevant de série B voire série Z, bref une espèce de sous-cinéma moins noble que les drames en chambre ou les épopées lyriques. Et puis c'était l'apanage de réalisateurs américains ou asiatiques. A-t-on déjà vu une créature française ? Heureusement, d'abord à Avoria et maintenant à Gérardmer, les fans français avaient un festival où se retrouver et partager leur passion. Et arrive dans l'Hexagone une génération de cinéastes, d'auteurs, qui n'hésitent plus à embrasser le genre pour exposer leur vision du monde et de la société. Nous parlons aujourd'hui de deux films français qui arrivent sur les écrans, auréolés de la rumeur flatteuse de Gérardmer. Juste Philippot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de La Nuée, qui a décroché un doublé, hein, prix de la critique et prix du public à Gérardmer, donc, pour une histoire d'insectes buveurs de sang, hein, pour le dire vite. Souliane Brahim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociétaire de la Comédie Française et vous avez accepté le rôle principal de La Nuée, une agricultrice en reconversion dans l'élevage de sauterelles comestibles. Enfin, Manuel Chiche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de The Joker. Vous avez décroché le gros lot il y a 2 ans à Cannes, puis aux Oscars, puisque vous êtes l'heureux distributeur français de Parasite, de Bong Joon-ho. Et là, vous avez eu le coup de cœur pour deux films dits de genre, La Nuée, en salle mercredi prochain, et puis aussi Teddy, de Ludovic et Zoran Boukherma, un très original film de loup-garou qui sort en salle le 30 juin prochain.
C'est crazy business ?
Arrête.
Non, mais c'est une vraie question, hein.
Il y a plus de protéines dans 100 grammes de sauterelles que dans 150 grammes de viande.
Oui, on la connaît, la chanson.
Bientôt, il n'y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir.
Tu veux plus les soigner des vieux ? Enfin, l'infirmière ?
Je vais être soignante, c'est pas pareil.
Tu t'es fait au bras?
C'est rien, ça. Je me suis brûlée avec les plaques du four. Faut que j'y aille, moi. À plus tard.
Alors, Virginie est agricultrice. Elle élève seule ses deux enfants. Elle pense pouvoir sauver sa ferme de la faillite en se lançant dans l'élevage de sauterelles comestibles. Mais petit à petit, elle se met à développer un rapport étrange aux insectes. Juste, Philippot, La Nuée est votre premier long métrage. Ce n'est pas vous qui en signez le scénario. Comment ça s'est passé ? On vous l'a soumis et qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette histoire ?
Alors, c'est très simple. En même temps, c'est très original dans le cinéma français parce que ça se passe pas réellement comme ça. Ce scénario, il a été écrit par Jérôme Genevray et Franck Victor sur une idée originale de Jérôme Genevray. En fait, moi, il y a une sorte de concours de circonstances heureux qui m'a permis d'arriver sur le projet. D'abord, j'ai participé en tant que scénariste et réalisateur à la première résidence SoFilm de genre. Organisé par Thierry Lunas et la société de production Capricci, qui est aussi coproducteur du film La Nuée. Et j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Acide, qui était un nuage de pluie acide comme ça qui dévastait, qui était aux trousses d'une famille qui tentait de trouver une issue. Et puis en rigolant, Thierry à Clermont-Ferrand est venu me voir en me disant écoute, t'as l'air d'être un spécialiste des nuages. Moi, dans ces résidences SoFilm et les résidences SoFilm de genre de long métrage, j'ai un super scénario qui est une formidable histoire de famille et je suis sûr que ça serait un super premier film pour toi. Et puis 6-7 mois plus tard, j'ai découvert un scénario, j'ai découvert une envie, j'ai rencontré Manuel Chiche qui était aussi coproducteur du film Et il y avait des évidences, c'est-à-dire qu'il y avait un sujet, il y avait des personnages qui étaient très puissants, il y avait cette mère, cette mère courage, célibataire, qui devait élever ses enfants. Il y avait des dilemmes qui, pour moi, étaient ceux de nous aujourd'hui, finalement, à savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour nos enfants, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre pour tenter de subvenir aux besoins, au risque de détruire la planète sur laquelle on vit. Et je crois que cette question, elle me faisait bien plus peur que ces sauterelles qui étaient finalement prédominantes dans le scénario d'origine, mais que j'avais envie de mettre derrière cette question qui, pour moi, était bien plus périlleuse encore de notre impact sur l'environnement et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour nos enfants. Voilà. Et en découvrant tout ça, en découvrant mes producteurs, en découvrant les scénaristes, bah, y a un engouement et surtout il y a une mécanique d'une énergie folle parce que le film s'est monté assez vite et il y a presque, clé en main, un premier film qui est un cadeau.
Et vous, Souliane Brahim, comment est-ce qu'on passe du français de rôle comme Electre dans la tragédie d'Euripide à celui de Virginie, donc effectivement une mère courage qui est quand même assez inquiétante dans la nuée.
C'est vrai que les deux se sont un petit peu enchaînés parce que quand j'ai rencontré Juste, je jouais ce spectacle, j'étais en train de le jouer. Et où il y avait aussi déjà en fait un engagement du corps, c'était un rôle assez physique. Et ensuite, le cinéma après c'est quand même autre chose. Déjà dès la lecture en fait, j'ai ressenti beaucoup de choses, très touchée par ce huis clos familial. La trajectoire de cette femme, mère, avec ses deux enfants, les élevant seule.
Et c'est un rôle très physique, celui de Virginie. Parce que vous, il faut que je puisse vous décrire pour nos auditeurs qui sont loin, qui ne vous connaissent pas forcément physiquement. Vous êtes plutôt un petit gabarit, frêle, un peu nerveuse, en tout cas dans le film, et vous devez manipuler des objets lourds. C'est un travail de paysan, c'est un travail très physique.
Ouais. Et d'ailleurs, avant de commencer le travail avec Juste, j'avais quand même regardé beaucoup de documentaires et j'étais assez... ça m'a beaucoup marqué, comment les femmes agricultrices se jettent comme ça tous les matins, sans prendre de vacances, sans congé, à corps perdu dans leurs élevages ou selon ce qu'elles font. Il y a beaucoup de femmes seules aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes parfois qui se sont suicidés parce que c'est trop dur, et elles se retrouvent avec ce business dont elles héritent un peu. Et donc, je les avais toujours un peu en tête, ces femmes.
Donc c'était plus aussi cet aspect-là du scénario que l'aspect fantastique qui vous a attiré?
Oui, aussi parce que je pense que ça importait autant à Juste dans la façon d'aborder le film. Et il a eu à cœur de constituer un trio d'acteurs. C'est très important de... qu'à la base, on puisse croire cette famille dans cet environnement, dans ce business dans lequel elle se lance. Et le reste, c'était aussi important, mais je ne sais pas comment
c'était
expliquer.
C'était secondaire,
c'est
ça
qui était... Non, mais disons qu'on y pensait quand on savait qu'il y avait des moments clés, il y avait des rendez-vous avec le côté film de genre. Et puis, c'était aussi d'écran, un peu. C'était un peu les curseurs aussi du personnage, en fait, dans sa déchéance, dans sa descente aux enfers. Donc, quand il y avait un événement important au niveau des... avec les sauterelles et tout ça, évidemment, ça, on le prenait en compte. Et il nous aidait à aller à l'étape d'après pour ce personnage aussi. Puisqu'il y a un côté, du coup, un peu extraordinaire. Elle développe des forces extraordinaires. On est capable de le faire dans la vie aussi. Mais là, il y a quelque chose qui est quand même aussi un peu extra quelque chose. Et du coup, ça nous aidait, je pense, dans le récit. À nous dire, c'est pris en relais avec les sauterelles. Et ça va le raconter pour nous.
Manuel Chiche, vous, comment vous avez découvert ce film donc à l'état
En fait, de projet? Il m'a été amené et proposé par Thierry Lounas, donc qui est à l'initiative des résidences au film. Il m'a dit est-ce que tu veux le coproduire avec moi? Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Et puis après, j'ai rencontré Juste. Il m'a bien plu aussi. et puis après, ça a surtout été piloté par Thierry. Donc, on est rentré comme coproducteur. Donc, on a fait le boulot classique d'aller chercher les financements. Et comme disait Juste, le film est plutôt né sous une bonne étoile, donc tout s'est enchaîné assez rapidement. Et puis après, vous arrivez, vous avez un film qui se termine, vous regardez les différents montages. Et puis, je pense qu'on a eu le sourire assez vite, en fait. Donc, et surtout, ce qui nous intéressait, c'est que c'était une tentative qu'on n'avait pas vu jusqu'ici dans le cinéma français.
C'est-à-dire d'hybridation entre l'aspect genre, l'aspect auteur, c'est ça ?
Ouais, enfin, oui et non. Enfin, c'est surtout un cinéma qui ose. C'est pas tant de dire ouais, il y a un renouveau du film de genre, etc. C'est surtout qu'il y a des cinéastes qui osent. Et je pense que c'est ça qui est primordial, qui osent faire confiance à un casting qui est pas celui que les chaînes de télévision attendent. Et moi, je pense que Suliane est juste extraordinaire dans le film, et je lui ai déjà dit. J'ai vu toutes les nuances de son jeu entre les prises, les rares fois où j'étais sur le plateau. Enfin, pour un réalisateur, c'est une bénédiction, parce que ça vous donne une flexibilité au montage qui est énorme, quoi.
Une pause musicale, une nouveauté, Billie Eilish, Lost Cause, avant de reparler des sauterelles. Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. Vous êtes bien dans tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Juste Philippot pour son premier long-métrage, La Nuée, un film qui flirte avec l'horreur et le fantastique, film dans lequel joue Suliane Brahim, et un film distribué par Manuel Chiche, donc nos trois invités du jour. Juste Philippot, on l'a un peu abordé, mais le fantastique dans le film, il vient pas tout de suite. Le début de l'œuvre, même le contexte, hein, sont très très réalistes. En fait, on voit la difficulté du travail de paysans et de la vie aussi d'une mère célibataire.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Pour moi, le plus important, c'était surtout d'éviter le film à prétexte. Et quand je dis prétexte, c'est d'avoir une super créature, à savoir une nuée de sauterelles tueuses, et d'en faire le vrai sujet du film. Pour moi, c'était pas ça. Ça parlait du monde agricole, ça parlait de notre agriculture, notre façon de faire. Donc il fallait être très, très sincère vis-à-vis de personnes qui travaillent, vis-à-vis de personnes qui portent un labeur, qui souffrent, vis-à-vis de questions que je me pose aussi, à savoir qu'est-ce que j'ai dans mon assiette et comment je consommerai mieux pour demain. Enfin, toutes les questions qui nous taraudent du matin au soir. Donc, pour moi, c'était sincère tout ça. Et donc, il fallait absolument bien évoquer le monde agricole parce que c'était le vrai sujet du film à travers ces agriculteurs et ces agricultrices, ces trajectoires de vie. Et pour moi, je crois que j'entendais Suyane parler tout à l'heure de Descente aux Enfers. Pour moi, j'ai presque décalé le film en me disant et si je racontais l'histoire d'un boulanger à qui on demande de vendre ses baguettes 20 centimes. Enfin, c'était ça pour moi le créneau. C'était parler du travail et comment on se donne, comment on se détruit et comment finalement on donne un corps. Et c'est pas encore suffisant, quoi. Il faut donner plus. Et tout ça, pour moi, c'était le sujet du film. Donc, j'ai presque envie de leurrer le spectateur aussi en lui disant on va raconter une chronique, on va parler d'une famille, d'un monde que vous connaissez bien. Et puis, petit à petit, la descente aux enfers dont parlait Suliane, elle va rentrer naturellement dans cet engrenage et on va plus savoir, enfin, finalement, quelle est la fiction de la réalité. Il faut absolument qu'on parle d'une histoire vraie. Et c'est comme ça que j'ai dépeint, en disant on va raconter une histoire vraie. Et on va pas raconter une histoire qui part complètement, je sais pas, en live ou n'importe où. Enfin, pour moi, c'était important de rester terre à terre, mais d'aller le plus loin possible dans cette horreur de l'engrenage qu'on connaît très bien et lui donner une image nouvelle, à savoir cette nuée de sauterelles, je dirais presque indomptable.
Mais il y a des éléments de contexte déjà dans le décor. Alors je pense que ça, vous avez dû le soigner, comme ce demi-globe. Alors comment on appelle ça, cette serre, enfin c'est une sorte de laboratoire. Enfin, elle l'appelle comme ça d'ailleurs, Virginie, ce laboratoire dans lequel elle s'isole de plus en plus souvent, hein, dans lequel elle élève ses sauterelles. Donc avant même de parler des effets spéciaux, rien que dans le soin accordé au décor, il y a cette étrangeté.
Oui, alors je voulais juste parler de Monsieur Belzins, directeur des Géopodes, qui nous a prêté les plans de ce dôme, qui a été décisif. Ces plans, en tout cas, nous ont permis de construire ce décor et d'aider ma chef décoratrice Margot Mémin à le concevoir avec son équipe, parce que c'était pas un décor évident et surtout c'est un décor qui devait raconter une agriculture du futur. Donc quelque part, il fallait avoir un pied dans le futur et un pied aujourd'hui, ancré dans nos problématiques de production, en tout cas les problématiques du personnage pour produire. Et c'est vrai que en filmant ce décor du haut, en voulant à la fois montrer une agriculture d'aujourd'hui, savoir rectiligne et intense, et d'arriver sur cette espèce de petite bulle de plastique, pour moi, il y avait presque l'idée d'arriver sur une nouvelle planète et finalement de proposer à Suya une sorte de voyage vers un monde qu'on ne connaît pas, vers une industrie qu'on ne connaît pas bien et une façon de faire qui est complètement nouvelle. Et c'est vrai que très rapidement, en filmant les champs et en arrivant sur ce dôme, j'ai eu l'impression de voir, comme je disais, une petite planète à découvrir. Et c'était d'autant plus intéressant qu'on rentrait, tout le monde est rentré finalement dans un endroit qu'il connaissait pas, avec au milieu une femme qui a employé des outils, qui travaillait sa matière très intelligemment. Et à un moment donné, je me suis même dit, mais en fait, ce business, il est pas si mal, quoi. Quand je la voyais vider ses nasses avec ses sauterelles, je me disais, mais en fait, ça marche. Et c'est vrai que voilà, tous ensemble, on a découvert un environnement et tous ensemble, on a découvert comment ce personnage de Virginie composait à travers cet environnement pour créer quelque chose d'extrêmement réaliste et en même temps totalement inconnu. Donc il y avait cette espèce de double opposition comme ça qui était un vrai terrain d'expérimentation et c'était hyper excitant.
Mais quand vous parlez des plans, c'est-à-dire que ce dôme, donc ça existe vraiment. Enfin, il y avait.
Ouais. Bah ouais. Et puis c'est un monsieur super parce que son but c'est de proposer des abris, en tout cas accessibles au plus grand nombre. Et sa structure, finalement, c'est une structure qui permet énormément de choses, de capter le soleil, l'énergie. Enfin, il y a toute une réflexion sur l'environnement et comment une cahute comme celle-ci peut être autosuffisante. Donc quelque part, enfin, les plans de M. Belzins rentraient complètement en adéquation avec le projet futuriste de Virginie, qui est de présenter une agriculture hyper propre, quasi besoin d'aucune énergie, ni d'eau, ni d'électricité. Enfin, tout ça est très autonome, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en plus d'être autonome, d'être vert et d'avoir un bilan carbone hyper positif, il faut produire le plus possible. Et ça, tout ça, on a essayé de l'interagir dans un élément qui était presque un vaisseau spatial quelque part. En tout cas, on a fait cette synthèse entre Petit Paysan d'Hubert Charuel et d'Alien de Ridley Scott à travers peut-être ce dôme qui avait un pied dans le monde agricole et un pied dans le futur.
On pense même presque à un moment à Seul sur Mars. Hein.
Oui, complètement, ouais.
Ou sous Liane, vous seriez un peu le Matt Damon, mais bon, un peu, ça va mal se terminer. Est-ce que vous êtes préparé très de façon, enfin, on parlait de préparation physique, mais presque en allant faire des gestes, en allant, parce que ça existe quand même des élevages de sauterelles comestibles, même si ça doit être très minoritaire. Est-ce que vous avez fait un travail, presque acteur studio pour ce rôle?
En partie, pour pas être complètement à côté, mais en fait c'était aussi un peu pour aller dans le sens de ce que dit Juste sur les décors et tout ça. De toute façon, il m'avait dit aussi qu'il fallait qu'on trouve ensemble comment on peut croire à son quotidien, ses gestes. Il faut que les gestes de travail, on puisse y croire. Donc on a quand même eu toute une réflexion sur ça. Et petit à petit, en fait, on trouvait des éléments avec lesquels on pouvait construire son laboratoire, donc accessoires, le protocole aussi, voilà, de toutes les manipulations qu'elle a à faire. Donc, on s'est quand même pas mal concentré sur ça. On avait vu aussi, en fait, un documentaire qui nous a quand même beaucoup inspiré, qui s'appelle « Anaïs s'en va en guerre ».
De Marion Gervais.
Ouais, et ça a quand même été aussi vraiment, ça nous a beaucoup inspiré. Il y a cette jeune agricultrice qui se lance dans son petit business de plantes avec passion, avec elle y met du temps, elle fait tout toute seule. Et en fait, on la suit dans le documentaire et elle plante avec son marteau ses petits clous, ses bâches. Et puis des restaurateurs trouvent extraordinaire le goût de ces plantes et tout ça. Et puis en fait, très vite, on voit comment elle est rattrapée par un système qui est plus fort qu'elle, parce qu'il y a la chambre des commerces, parce qu'en fait, la mairie elle dit qu'il faut absolument payer l'électricité et tout ça, alors qu'elle vit dans une petite caravane. Et en fait, ça nous a beaucoup touchés. En fait, à travers elle, on s'est dit, Virginie, il y a quelque chose qui est ancré dans le réel, quoi.
Madame ? Oui. vient de passer la première serre, mais on sait pas où mettre la deuxième. Si vous pouvez nous dire où c'est qu'on doit mettre.
Qu'est-ce qui se passe avec ma voiture, là?
Ouais.
On va la mettre tout droit, derrière le camion.
Mais attendez, l'arbre, qu'est-ce que vous en faites?
On le coupe. Maman, tu fais quoi? Non, maman, arrête-toi. Faut que tu restes là-bas, Gaston. Non, mais c'est l'arbre d'Iliette. Il y en a plein, des arbres. Non, maman, s'il te plaît, je veux pas que tu te fasses mal. Non, maman, tu... Lâche-la.
On l'attachera là-bas, c'est pareil.
Non, c'est différent, t'as qu'à couper un autre arbre. Mais arrête.
Alors Virginie hein, devient prête à tout pour que son exploitation prospère, parce qu'à un moment, effectivement, ça va prendre de l'ampleur. Vous le disiez, effectivement, il y a l'aspect économique de la pression du marché de la rentabilité, mais en même temps, il y a, et c'est aussi ce qui donne son sel au fantastique, est-ce que c'est pas aussi affaire de possession, ce que vous montrez, ce que vit Virginie, ce rapport à ces sauterelles?
Ouais, affaire de possession, qui possède qui? Enfin, en même temps, c'est intéressant cette histoire parce que elle semble posséder le pouvoir à travers justement la façon très intelligente dont elle va continuer de produire et trouver des infrastructures qui permettent d'exploiter au mieux. Mais c'est vrai que petit à petit, en fait, l'idée, c'est de voir le pouvoir s'inverser, c'est-à-dire que elle a le pouvoir de pouvoir produire, et puis petit à petit, elle est dépendante de cette production, et au bout d'un moment, en fait, sa production a le pouvoir sur elle. Elle réclame constamment de grandir, de grossir. Enfin, c'est presque l'histoire d'une femme qui monte une centrale nucléaire, et puis petit à petit, c'est la centrale nucléaire qui dompte la personne et qui la maîtrise, enfin, au point de dire « je vais exploser, mais tu sais pas quand ». C'était ça qui était intéressant, c'était de voir ce rapport à la possession s'inverser et voir une femme dépendante, en tout cas cette mère, d'être dépendante comme ça d'une production qui prenait plus de place que les enfants, plus de place que la vie normale, enfin, sauf qu'il faut continuer de vivre normalement, donc elle va aussi agrémenter sa vie normale de mensonges et d'un engrenage qu'elle ne maîtrise plus parce que son but c'est d'arriver là où elle veut, et elle le sait pas, et elle se dit toujours, enfin, j'arrêterai quand j'en aurai vraiment envie, enfin, j'arrêterai quand j'aurai remboursé les dettes, j'arrêterai quand il sera, avant qu'il soit trop tard, j'arrêterai. Et puis, bah, notre histoire aujourd'hui, elle nous le montre, enfin, on n'est pas capable de ça, et puis surtout, on se fait rattraper par cette envie d'arrêter, mais on n'y arrive pas.
Après, peut-être, ouais. Je sais pas, quand on est acteur, peut-être aussi qu'on creuse aussi sur ce qui n'est pas visible ou sur ce qui n'est pas dit. Et comme vous parlez de possession, c'est marrant parce que je me dis, ah oui, mais c'est aussi l'histoire d'une dépossession de soi. Mmh. Et en tournant le film, et après aussi, je me suis dit, c'est fou. Et là encore, je pensais du coup à toutes les femmes du monde, quand même. Non, mais les coups qu'on peut recevoir, les coups qu'on peut prendre, mais dans le sens, ceux de la vie, en fait. Ceux d'une mère seule avec des enfants, d'une mère face à son travail, aux difficultés financières. En fait, c'est le corps, quoi, qui doit prendre ça à bout de bras, mais du coup, qui prend cher, dans sa chair, quoi. Et je pense que, enfin, pour moi, le film, raconter ça est déjà un peu pendant, même si je le racontais pas forcément, mais je me suis beaucoup, appuyée sur ça, en fait. Et je me disais inconsciemment, cette femme, qu'est-ce qu'elle met en place, qu'est-ce qu'elle cherche? Et parfois, j'avais la sensation que c'était aussi, une forme de, quelque part, de, elle se retrouve avec ses enfants à devoir tout gérer, voilà, le père s'est suicidé, Et d'emblée comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'elle doit le faire, en fait. Mais c'est plus compliqué que ça. Peut-être que, voilà, des fois, je me disais, elle essaie de le faire, mais en fait, c'est un aveu de ses fragilités aussi.
Enfin, vous vous êtes imaginé son passé, vous vous êtes raconté toute sa vie précédant l'histoire du film.
Oui, en tout cas, juste de toute façon, au moment où commence le film, on comprend qu'il manque quelqu'un. C'est vrai que j'ai construit beaucoup de choses par rapport à ça, et puis aussi parce que du coup ça permettait de construire des choses avec les enfants, les deux acteurs aussi qui jouaient les enfants. Mais c'est aussi, je pense, un film sur la dépossession de soi, quoi.
Oui, parce qu'elle se saigne littéralement pour que son exploitation grossisse. C'est peut-être aussi l'aspect métaphorique qui vous a plu, Manuel Chiche.
Moi, ce qui me plaît dans le film, c'est que c'est des personnages avec des failles, avec plein de fêlures. Et qui les rend profondément humains et attachants. L'emballage fantastique autour, entre guillemets, et pas ce qui m'intéresse le plus. C'est justement d'utiliser ce genre de cinéma pour raconter une histoire qui est celui du combat d'une femme pour sa famille. Et j'espère que c'est ce qui touchera les spectateurs. Ouais.
Mais c'est un genre qui est d'autant plus, je trouve, utilisé intelligemment qu'il n'est pas... Alors, peut-être que ça a beaucoup pesé dans le budget du film, mais qu'il n'est pas trop ostentatoire. Mais les effets spéciaux sont évidemment, j'imagine, réels, mais tellement bien réussis que c'est... ultra crédible et presque très réaliste.
Ça a été préparé très tôt à l'initiative de Thierry Lounas et de Juste. Donc ça a été pensé avant le début du tournage et travaillé au... Enfin, les plans ont été storyboardés et préparés en fonction de ça. Et de toute façon, en dehors des problématiques budgétaires qui, c'est vrai, existent, je trouve le film bien plus efficace avec ce type d'effets spéciaux-là. C'est pas un film catastrophe à l'ancienne. Et les sauterelles ne sont pas non plus le moteur principal du film.
Mais effectivement, qu'est-ce qui était le plus compliqué, juste? C'était donc d'arriver à... Parce que vous avez tourné avec des véritables sauterelles, mais aussi avec des sauterelles numériques. C'était la complication, c'était cette nuée, justement, donc ces milliers, voire ces millions de d'insectes à reproduire, c'est ça?
Alors, il y a plein de choses différentes. Déjà, moi, c'était très important de travailler avec des textures, enfin, des vraies textures. Et quand je dis des textures, c'est d'avoir ce quatrième comédien qui est cette nuée de sauterelles et de l'avoir pour de vrai. Donc, quand on parlait tout à l'heure de préparation, on a filmé effectivement Sulliane dans une espèce d'environnement qui ressemblait à celui du tournage avec 5000 sauterelles. Il y a 5000 sauterelles sur le plateau qui sont les sauterelles, gérées, travaillées par un animalier formidable et son équipe qui s'appelle Pascal Trégui. Et c'est vrai que très vite, on trouve, nous, nos rapports à cette sauterelle, enfin à ces sauterelles, à ces individus, parce qu'on les appelait des individus qu'il fallait absolument protéger. Donc finalement, il y a une passe comme ça qui est très naturaliste. On apprend aussi de l'insecte. Et mon superviseur d'effets numériques, qui s'appelle Antoine Molineau, qui travaillait avec Digital District, est un génie. Et très vite, il a compris que ce que je voulais faire, c'était quasi du documentaire. Enfin, sous-entendu, lui qui arrivait avec son background de film américain et de blockbuster sur lequel il travaillait, en gros, il m'a dit, tu veux que les effets se voient pas. Et je lui ai dit, ouais, t'as tout compris. Enfin, maintenant, le grand objectif, c'est de réussir à mélanger les deux. Et c'est vrai que pour lui, ça a été finalement une recherche et une invention pour réussir à trouver une nuée qui se déplacerait autrement qu'un nuage de Tex Avery ou un truc qui ressemblerait à une espèce de film, Manuel le disait, un peu grandiloquent, mais d'avoir une sorte de nouvelle nature, de nature changée, modifiée par Virginie, à quoi ça ressemblerait. Et c'est vrai qu'il a inventé une sorte de nuée d'insectes, un mélange entre le papillon et l'abeille. Enfin, c'était ça pour lui, un peu la façon de réfléchir. Et très vite, il a fallu revenir sur des effets spéciaux qui devaient être extrêmement naturels. Donc, je dirais finalement, le plus difficile, c'est pas la recherche, c'est le temps de recherche qu'on a qui est très court. Et puis surtout, c'est l'amplitude de cinéma différent à l'intérieur du même. C'est-à-dire que dans la journée, vous êtes sur des scènes de vie de famille où il faut être extrêmement ouvert à une énergie de comédien. Et puis, l'heure d'après, vous êtes sur un storyboard qui est très classique, très calé sur des problématiques techniques qu'il faut respecter. Donc il y a presque plusieurs cinémas ou plusieurs langues de cinéma dans la même journée. La synthèse, elle donne parfois le tournis, mais c'est vrai qu'on la trouve à la toute fin. Et on la trouve à la toute fin après un chemin autour du son, des effets spéciaux. Enfin, tout ça est assez, je peux pas dire laborieux parce que ça serait un mot très péjoratif, mais c'est vrai que j'ai été moi-même le premier spectateur d'un film quand le film commençait déjà à ressembler à un film fini avec des effets spéciaux terminés, avec un son posé et avec un design de l'ensemble déjà plus ou moins maîtrisé.
Mais alors pour vous, Sulliane, c'était comment? Vous avez dû tourner quand même avec des insectes, vous n'étiez pas dégoûté? Vous n'étiez pas sur fond vert? Comment ça s'est passé pour vous?
En fait, on s'est redit ça avec Juste il y a quelques temps en revoyant le film. Au départ, la sauterelle, c'est pas un insecte repoussant ou c'est pas comme une araignée, c'est pas. Donc avec le recul, ça j'aime bien aussi dans le film le fait que c'est ce que elle va mettre en place, c'est ce que le système dans lequel on vit lui demande de mettre en place, c'est ça en fait qui va se retourner contre elle, du coup voilà que cette nuée de sauterelles va se retourner contre cette famille.
Cet élevage intensif.
Les tue, enfin je veux dire c'est le système quoi. Et donc pareil, ouais non franchement j'ai une petite un petit stage. Il y a eu une rencontre pour voir si tout allait bien se passer. Mais ça s'est très bien passé parce que ça picote un peu, voilà, parce que ça a tendance à s'accrocher sur la peau. Mais c'était plutôt agréable et tout, il n'y a pas eu de soucis. En revanche, après, c'est plus sur la longueur, voilà, du tournage où, en fait, je pense que pour toute l'équipe d'ailleurs, on le fait au début, puis après, il faut y retourner. Et puis, c'est pas que c'est anxiogène, mais il peut quand même, à la fin, en développer quand même. Hein, ouais. Ça le devenait un peu. Et puis, en fait, sur le décor dans lequel on était, on s'est installé quand même plusieurs semaines, il y avait les sauterelles de la vraie vie qui en fait nous envahissaient. Enfin, qui nous envahissaient.
Oui, les sauterelles non-actrices, quoi.
Et voilà. Les non-figurantes. Ouais. Et donc, qui se logeaient partout, dans les coins, les recoins, nos vêtements. Donc, en fait, il y avait à la fois celles qui étaient sur le plateau avec nous et qui font partie du film, et puis il y avait aussi d'un seul coup une sorte d'environnement autour de nous qui participait à un moment donné. Ça devenait un petit peu anxiogène quand même.
Non, et puis je voulais juste revenir sur le petit extrait qu'on vient d'entendre. C'est intéressant ce que dit Suliane, et c'est vrai qu'il y a aussi une logique de comment dirais-je, un caractère anxiogène avec cette espèce de plastique qui nous entourait, ces serres qui ont finalement bouché notre espace. Donc on s'est retrouvé un peu comme Virginie et ses enfants à être, je dirais, attaqués par le plastique qui entourait cette maison, et puis en même temps cette nature qui reprenait ses droits d'une façon ou d'une autre, et on était là au milieu, je dirais pas très à l'aise, mais au fur et à mesure, tu parlais de patine, c'est vrai que le décor a patiné les comédiens et l'équipe, et ça crée un corps qui est un corps actif, un corps collectif, et ça crée plein de super idées, mais à vivre, c'est vrai que voilà, c'est pas l'enfer, mais c'est quelque chose d'assez étrange.
Mais donc du coup, tout était très très précis, enfin, vous aviez tout était très pensé avant même de commencer à tourner, vous aviez un
oui et non, c'est-à-dire les scènes techniques, ouais. Parce qu'il le faut absolument. Vous êtes 15 autour d'une table et à la 13e réunion, les gens se disent « Ah, mais j'ai enfin compris ce que tu voulais faire. » Donc vous faites des schémas, des dessins. Enfin, il y a plein de choses qui permettent surtout d'avoir la même idée. Ces scènes-là, elles sont clés. Le reste, c'est une famille. Donc, scène de repas, le jeu de cartes. Il y a une scène de jeu de cartes avec une chèvre. Ça appartient aux comédiens, c'est-à-dire que je ne peux pas leur dire « faites ci, faites ça », rigoler à ce moment-là, enfin, c'est leur rire à eux, c'est ce qu'ils créent ensemble qui donne aussi une couleur qui fait que ça ne trahit pas à l'image. Enfin, on est avec des hommes, des femmes qui nous touchent parce que ce sont des vrais, ce ne sont pas des comédiens. Et ça, c'est une improvisation qui est permanente avec quelque chose de beaucoup plus technique.
Et avant de commencer ce tournage, donc c'est votre premier long métrage, je suis Philippot, vous vous êtes nourri au film de genre.
Non,
ça
pas
fait
du
partie
tout.
De votre culture cinématographique.
Pas tant que ça. Moi, j'aime ça, mais je pense que comme tous les cinéphiles, disons que ce qu'on aime avec ces films, et on se le disait aussi avec Manuel et avec Thierry, c'est ce rapport aux outils. Enfin, c'est très généreux. C'est-à-dire que moi, j'aime pas la dénomination film de genre parce que des fois, je trouve qu'elle est péjorative. Moi, j'appelle ça du cinéma, et Thierry le dit assez bien. Partout dans le monde, on appelle ça du cinéma. Donc, on appelle ça du cinéma. Maintenant, je trouve que les outils du film de genre, si je dois résumer comme ça, c'est des outils pour le spectateur. C'est-à-dire que moi, j'aime le spectacle. J'aime quand ça explose. J'aime quand ça court. J'aime quand il y a une tension. J'aime quand il y a du mouvement. Et c'est vrai que quand on arrive à manier ces outils-là de façon un peu naturelle, moi, je suis pris dans un truc que je vois qu'au cinéma. Donc il y avait vraiment cette envie d'être à la fois très réaliste. Donc je me suis nourri de documentaires et sur tous les autres cinémas. Enfin, j'ai pas revu Les Oiseaux, j'ai pas revu Alien, j'ai pas revu Fast 4 de Saul Bass. Enfin, il y a plein de choses comme
ça. Ou La Mouche de Cronenberg.
La Mouche, mais qui font partie de cauchemars adolescents. Enfin, et qui sont là et qui, à mon avis, structurent aujourd'hui mes envies de films avec des images, avec des angoisses, avec des trucs qui me collent à la peau, littéralement. Et c'est vrai que pour l'anecdote, moi je suis arrivé dans ces résidences, ce film de genre, en ayant avant suédé avec des lycées agricoles des films, dont La Mouche. Donc j'ai revu cette séquence d'acide comme ça, de mouches transformées, enfin de corps qui se putrifie, qui disparaît complètement. Et voilà, la vie fait bien les choses. Et disons que ce cinéma-là est très important pour moi. Il est en moi et aujourd'hui il a tendance à ressurgir. Mais c'est pas une référence absolue. Voilà.
Alors on parlait de la plutôt bonne image des sauterelles, hein, par rapport à d'autres petits animaux, je sais pas, des insectes, parce que les araignées sont pas des insectes, mais enfin bon, y en a un animal ou une créature qui n'a jamais eu vraiment bonne presse, hein, c'est le loup-garou. Deux frères français, deux jumeaux, Ludovic et Zoran Boukerma, se sont emparés de cette figure monstrueuse pour un film très français tourné dans les Pyrénées, c'est Teddy.
Bonsoir. Approchez, approchez. Je me présente, je m'appelle Teddy Pruvot, je suis le copain de Rebecca depuis 8 mois. On a dit que t'avais foutu le bordel au village.
Mais non, j'ai pas foutu le bordel.
Dégage maintenant, hein.
Ah, vous puez l'alcool.
Tu penses à la gratitude?
Tu vois ça? 90 mètres carrés habitables, piscine creusée et pergola.
C'est quoi une pergola?
J'entends toujours les gens dire « Oui, il fait grand beau, ce soir nous dînerons sous la pergola. » Et je me dis « Nique sa mère, il nous en faut une. » Oh. Hey, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive.
Oh, Didier! Croque-mitaine!
S'il te plaît.
Ah, le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent.
Daisy, attends, tu me fais mal là.
Allez, le bisou.
Tu manges?
Fromage de tête.
D'habitude, tu prends des chocopics.
Voilà la bande-annonce de Teddy des frères Boukerma. Teddy qui est également un film de Jokers, Manuel Chiche.
Ouais, ouais, c'est un concours de circonstances.
Non, mais il sort le 30 juin. Il se passe quelque chose dans le cinéma français.
Ouais, il est probable qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une génération qui ose autre chose. Et qui arrête de se dire on n'est pas capable de faire ci ou on n'est pas capable de faire ça. Preuve en est que là, les deux frères Boukerma sont en tournage et cette fois-ci, ils s'attaquent à la figure du requin dans la baie d'Arcachon. Donc, et je trouve que nos territoires sont des choses qu'on a trop peu explorées. Je pense que la ceinture du périphérique fait de gros dégâts et je suis très content de pouvoir accompagner justement cette génération-là.
Alors moi j'ai pu rencontrer Ludovic et Zoran Boukerma qui m'ont effectivement expliqué avoir été nourris au cinéma, aux séries américaines.
Je pense que nos références viennent vraiment nous plutôt de l'enfance et plutôt de la culture pop, grand public américaine, très honnêtement. Les films de Wes Craven ou alors Le Loup-garou de Londres de John Landis et aussi toutes les adaptations possibles et imaginables des livres de Stephen King. Les bonnes, les moins bonnes. Je crois qu'on a... La première fois qu'on a eu très peur, c'est devant la mini-série 1990, adaptée du coup du bouquin de Stephen King. On était fans de Carrie aussi, de Misery, de La Ligne Verte, etc. Ça, c'était vraiment notre truc d'enfance. Et on a eu envie, en fait, de mélanger ces références très américaines avec la culture française. Et nous, on a grandi dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne. Et ce qu'on a voulu faire, c'est amener ces références très américaines dans le décor où nous, on a grandi. Et donc, faire se rencontrer des acteurs non-pros, en partie, castés dans le sud de la France, avec un accent du sud de la France et un monstre un peu américain. Voilà. Et c'est un peu cette rencontre-là qui va aussi créer une espèce de décalage qu'on aime bien, nous, un peu... Parce qu'il y a, en fait, c'est un film de genre, donc dans le sens film d'horreur, mais c'est aussi une comédie, c'est aussi un drame. Et on a, nous, dans notre univers à nous, la comédie passe aussi par le fait d'avoir des comédiens qui sont un peu mal à propos dans ce qu'on fait. Donc c'est vrai que ça crée un truc un peu décalé qu'on aime bien.
Et alors, juste quand vous dites, bon, vous aimez le genre, c'est surtout le fantastique, l'horreur, ou alors par exemple, vous pourriez vous lancer aussi dans la science-fiction
Bah, je crois qu'on a de plus en plus envie de faire du genre parce que en fait faire un film c'est un processus qui est long et nous on avec Zoran on a tendance à peut-être facilement se lasser des projets, du coup on a besoin d'avoir un truc à quoi se raccrocher et on a le sentiment que faire du genre ça permet de c'est que l'envie part d'une envie d'univers fort et donc on s'y raccroche plus facilement que je pense qu'après Teddy on se voit mal faire une petit drame social sans dimension, soit fantastique, soit en tout cas avec un univers de fiction très fort. Ouais.
Voilà, donc les frères Boukerma, réalisateurs de Teddy qui sera en salle là pour le coup le 30 juin. Puis il y a d'autres projets, d'autres films qui arrivent, Manuel Chiche.
Bah ouais, on travaille quand même, donc on essaye de faire bien. On verra à la fin. Hein.
Et puis a été annoncée cette semaine la naissance de Wild West, donc une structure cofondée par Thierry Lounas de Capricci, et puis par Vincent Maraval de White Bunch, donc une structure qui va, une société de production dédiée à 100% au cinéma de genre. Il y a déjà plus d'une dizaine de longs métrages en développement, en pré-production, etc. Enfin, ça y est, c'est une nouvelle vague, c'est presque une déferlante qui arrive.
Il y a beaucoup d'initiatives autour de ce qu'on appelle le cinéma horreur ou fantastique. On verra ce que ça donnera. Mais je pense que le plus intéressant dans tout ça, c'est pas tant qu'il y ait des projets qui se développent autour du cinéma d'horreur ou fantastique, mais plutôt qu'il y ait cette génération, je suis désolé, je le radote, mais qui arrive et qui n'a pas du tout froid aux yeux. Enfin, même quelqu'un comme, je suis désolé, je parle surtout des trucs que je connais, mais comme Jean-Christophe Meurice, qui dirige la troupe des chiens de Navarre, son film Orange Sanguine...
En sélection à Cannes.
Ouais, mais il raconte quelque chose sur la France d'aujourd'hui avec une tonalité qu'on n'a pas vue jusqu'ici dans le cinéma français. Et le film, pour moi, tire à boulet rouge sur la France d'aujourd'hui et sur ce qu'on est en train de devenir. Et ça rejoint mes convictions. Un film comme Teddy, par exemple, c'est un film qui parle de l'exclusion et comment l'exclusion peut engendrer un monstre. Alors, tout ça, c'est sous l'habillage du divertissement, mais les sujets sont bien plus profonds.
Mais bien sûr, de toute façon, c'est ce dont on parlait avec La Nuée, puisque c'est quand même une femme qui se saigne et aussi qui est saignée, on peut dire, par des contraintes du marché de rentabilité. Et effectivement, Teddy, c'est quand même le portrait d'un marginal, ou en tout cas d'un homme, d'un jeune homme marginalisé, et qui effectivement, là, c'est la figure du loup-garou, mais vous avez raison, c'est très métaphorique sur l'état de la société.
Ouais, c'est ce qui est intéressant. C'est que c'est pas juste un pur divertissement, c'est qu'il y a une vision du monde qui est exprimée avec talent à l'intérieur de ces films-là. Et c'est ça qui compte, c'est qu'il en reste, au final, il en reste quelque chose. Pas juste 1h30 où on s'est dit, ouais, on s'est bien marré et puis on l'oublie. Enfin, l'essentiel sur les films, et c'est le temps qui les juge. C'est est-ce qu'on a laissé une trace ou pas?
C'est ce qui fait aussi peut-être l'aspect culte des films de Carpenter ou de Romero.
Oui, par exemple. Je pense que tout cinéaste rêverait de laisser autant d'œuvres marquantes que ces deux-là, par exemple.
Parce que encore cette semaine a été diffusé sur Arte le film de Carpenter à New York 1997. Film de genre. Post-apocalyptique, mais qui raconte un état de la société américaine de ce début des années 80.
Ouais, vous pouvez transposer avec la vie en banlieue et le périphérique qui sert de mur. Ça marche aussi.
Donc, moult films à venir. On a vraiment hâte de voir ça. Merci Manuel Chiche. Merci Juste Philippot.
Merci
Souyane Brahim. Donc, j'invite tous ceux qui peuvent à se précipiter en salle en France, donc dès mercredi prochain, pour voir La Nuée. Et puis, il y aura Teddy le 30 juin. Et puis donc, plein de films à venir, et des films très excitants. Juste après l'électropop dansante de Jungle avec Talk About It, on partira au Congo-Brazzaville pour la sortie d'un documentaire d'un autre genre, politique celui-ci, qui parle de révolution. Cette émission par une pause au Congo Brazzaville et la projection d'un film très politique. Réalisé en deux volets, le documentaire révolutionnaire La Genèse, du cinéaste et réalisateur congolais Assim Toll Boukambou, a fait sa sortie les 8 et 9 juin dernier à Brazzaville, où il a été diffusé devant le public au Centre culturel Zola. Ce film déroule les fils des résistances coloniales au Congo, de 1880, la date qui marque le début de la colonisation française dans le pays, à 1991, année de l'ouverture du pays aux multiples multipartisme. C'est le Congo entre fascination et résistance aux puissances européennes. Reportage à Brazzaville, signé Loïcia Martial.
21 octobre 1896, plaine de Biedi. Après 4 ans de guerre, le quartier général du chef Mabiala Maganga est encerclé par les troupes françaises.
La nuit vient de tomber. Le grand portail du centre culturel Zola est largement ouvert. Il donne droit sur la salle de cinéma, une salle pas totalement couverte. Yves Mfuna, fonctionnaire à la retraite de 70 ans, fait partie des spectateurs.
D'abord, on sait me distraire. Le plus clair de mon temps, je le passe à la maison. Et ensuite, ça me permettrait de me remémorer ce qui s'est passé. Peut-être que pour les générations futures, éviter de commettre certaines erreurs, ces erreurs il y a.
Le film révolutionnaire La Genèse est un condensé d'archives vidéo, photos et de témoignages sur l'histoire du Congo. C'est le résultat d'un travail de recherche mené pendant 3 ans au Congo, au Cameroun et en France par le réalisateur congolais Assim Tal Boukambou qui le résume ici.
Disons que c'est un film qui retrace l'histoire du Congo de 1880 à 1959, la veille de l'indépendance. Donc comment les Congolais ont résisté, comment les Congolais ont subi les travaux forcés sur la colonisation, comment les Congolais se sont organisés à travers le mouvement de André Grona-Matsoua et comment les Congolais ont envoyé Jean-Félix Tshikaya, premier député du Congo, défendre le Congo et surtout travailler à l'abolition du code de l'indigène. C'est comment justement des personnes comme Fulbert Hulot arrivent au pouvoir, arrivent aux affaires.
Émile Opango, fils de Jacques Opango, leader politique de la période pré- et post-indépendance, est un des personnages du film. Il a également suivi la projection.
Mon témoignage a été porté surtout sur l'histoire des hommes politiques congolais en relation avec mon géniteur, n'est-ce pas, les différentes relations qu'ils avaient et les différents événements, n'est-ce pas, qui ont concouru, n'est-ce pas, à l'avènement de l'indépendance au Congo, comment je les ai vécus, comment j'en ai été le témoin. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer.
Dans la salle, Sébastien Kamba, premier cinéaste congolais, qui s'est révélé au public en 1965, a pris place aux premières loges.
Dans ce film, ce que j'ai retenu, c'est la véracité de l'histoire. Et vous savez, l'histoire, on ne triche pas avec l'histoire.
On ne peut pas la tronquer.
On ne peut pas la tronquer. C'est la seule chose qui vous rattrape.
Axer Mampouya, journaliste de formation, n'a pas manqué l'occasion de suivre ce film réalisé en 2 parties, de 1h40 chacune.
Oui, c'est un film déjà fascinant, très passionnant, qui nous replonge un peu dans l'histoire de notre pays, que nombre d'entre nous ignorent. Et ça, c'est un vrai creuset de l'histoire de notre pays.
Après sa sortie à Brazzaville, le film révolutionnaire sera diffusé dans les tout prochains jours sur les chaînes internationales de télévision. Il sera également disponible en version CD. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
On se quitte en musique avec ce titre In Degrees de Fall, remixé par Purple Disco Machine. C'est ainsi que s'achève Tous les cinémas du monde, une émission présentée par Sophie Torlotin, réalisée par Laurie Plisson et Fanny Renard. On se retrouve avec Elisabeth Lequéré la semaine prochaine pour une émission consacrée au nouveau documentaire du réalisateur algérien Hassen Ferrani qui nous entraîne au 143 rue du désert. D'ici là, bonne semaine à tous. RFI.